Allez Louis.
Allez mon petit bonhomme. Ouais, mon petit bonhomme, bravo.
Effectivement, toujours ravi de retrouver ce générique hein, de Tribune Foot. Alors, on vous l'avait dit, hein, on a eu Étienne Bonamy dans Tribune Sport pour la première partie de cette émission Tribune Sport. Eh bien là, la dernière de Tribune Foot pour cette saison, c'est Vincent Duluc, le leader de la rubrique foot qu'on va maintenant pouvoir écouter. On est ravi parce qu'on a vu Jean-Marie Laurent, le rédacteur en chef de France Football, comme premier invité de l'année 2007. Eh bien, c'est Vincent donc, qui aura été, en cette année 2007, notre dernier invité. Allez, Vincent Duluc, donc, c'était en juillet dernier dans les studios d'Herveux. Je suis ravi d'accueillir Vincent Duluc.
Hein. Bonjour.
Bonjour Vincent, donc venu en voisin, hein. Vincent à quelques mètres de nos studios, c'est ça?
C'est ça.
Alors, leader de la rubrique foot de l'équipe, c'est ça?
Oui.
Hein. Comment c'est arrivé? Comment on arrive comme ça à devenir leader de la rubrique foot de l'équipe?
Mais en fait, il faut déjà dire que leader, en fait, c'est un...
Oui.
C'est un titre qui appartient qu'à la grille des
salariés. Oui, oui, bien sûr. Non, mais...
c'est un truc un peu à part. Non, c'est juste de... On va dire que c'est celui qui fait les...
Qui fait les papiers,
au moins sur l'équipe de France, en tout cas. Après bon, le reste on partage tout, mais sur l'équipe de France c'est vrai que c'est plutôt moi qui fais les comptes rendus. Donc voilà, c'était un titre qui avait été inventé pour Pierre Chani, Denis Lalanne dans les années 60 et qui est resté, mais je suis pas sûr que ça dure très longtemps. On va dire que c'est un peu moins dans l'air du temps. Mais comment on y arrive? J'ai commencé à la base, j'ai commencé au Progrès à Bourg-en-Bresse, puis au Progrès à Lyon pendant très longtemps.
Ce qui explique que vous êtes encore sur les matchs de Lyon souvent.
Ce qui explique que je sois sur les matchs de Lyon, c'est d'abord que Lyon, la meilleure équipe française, voilà. La meilleure équipe de France française était à Tourcoing. Je rentrerai un peu moins souvent dans ma région d'origine, et c'est vrai que ça tombe bien de travailler à l'équipe et de pouvoir rentrer un peu dans sa région d'origine, c'est vraiment très bien.
Donc et ensuite donc le Progrès,
voilà, puis... en fait je suis resté au Progrès comme à Bourg de 80 à 86, au Progrès à Lyon de 86 à 95, donc j'ai quand même fait un très long séjour là-bas, et je suis à l'équipe depuis le 13 février 1995.
D'accord, ok. Aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de jeunes qui naturellement se posent la question. On y entre plus facilement qu'avant à l'équipe, où il faut passer par des écoles, ou simplement être pigiste comme dans le passé, ça suffisait?
Je pense que paradoxalement, c'est plus dur qu'avant de rentrer à l'équipe par rapport au nombre de candidatures. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup plus de souplesse, c'est-à-dire qu'il y a plus de turnover que dans le temps. Dans le temps, les rubriques étaient très figées, et on rentrait dans une rubrique, on y restait 40 ans. Aujourd'hui, ça bouge beaucoup plus, le paysage médiatique a changé, il y a plus de gens qui vont un peu vers la télé ou d'autres choses. Donc ça bouge, je pense que c'est toujours jouable. En revanche, la meilleure manière de rentrer dans un journal comme l'équipe, ça reste une école de journalisme maintenant. Je pense que dans le temps, c'était beaucoup plus facile de faire sa formation sur le tas,
de commencer.
Moi, personnellement, j'ai pas fait d'école. J'ai commencé pigiste assez 16 ans et demi, donc j'ai vraiment appris sur le tas. Mais aujourd'hui, ça me paraît difficile, et la meilleure formation, ça reste une école de journaliste. Alors évidemment, c'est très long, c'est souvent des formations à bac plus 5, bac plus 6, donc c'est vraiment compliqué, et il est très rare maintenant de voir quelqu'un embauché à l'équipe avant d'avoir 30 ans. Ça arrive, mais c'est de plus en plus rare.
Oui, c'est vrai, c'était ce que nous disait même Jean-Marie Laurent pour France Football, hein, qui avait commencé lui comme pigiste, et qui disait qu'aujourd'hui, cette époque, elle était un peu révolue, quoi.
Bien sûr, mais d'ailleurs, France Football et l'équipe, c'est la même maison, c'est un peu la même structure, c'est la même philosophie, et ça devient vraiment, vraiment très difficile. En revanche, on a toujours à l'équipe ce qu'on appelle un vivier, c'est-à-dire que des jeunes qui sortent des écoles et qui nous semblent les plus prometteurs, et bien ils arrivent chez nous pour 2 ans, et ils ont 2 ans pour faire leurs preuves, donc ils sont 7, 8, 10, ils tournent entre les rubriques au gré des nécessités, et ça reste, je trouve, un très bon marchepied, parce que même s'ils trouvent pas l'équipe, ils vont trouver ailleurs en général.
Ouais, mais enfin, quand on rentre à l'équipe, faut être aussi un féru de sport, hein. On peut pas...
Ah mais il vaut mieux, même si parfois...
C'est une affaire de spécialiste, hein, avant
exactement,
tout, hein.
Même si parfois on a tendance à présent qu'on traite tous les aspects du sport, être un pire spécialiste de sport n'est plus suffisant. Maintenant il faut aussi connaître la législation du dopage, il faut connaître le droit tout court, il faut connaître beaucoup de choses, il faut être fort sur les faits divers. Quand on voit le drame qu'il y a eu au PSG, on est confronté au travail des faits divers des quotidiens généralistes, où il faut avoir des informations auprès de la police, etc. et tout. Donc il faut vraiment faire beaucoup de choses, mais ça reste un vrai journal de spécialistes où on n'a pas le droit de se tromper sur le nombre de buts inscrits par Just Fontaine à la Coupe du Monde 58.
C'est sûr. Ouais, c'est la Bible, hein, comme tout le monde dit. Hein.
Mais c'est la Bible, je ne sais pas si c'est la Bible.
En tout cas,
on est des spécialistes et on se doit d'être pointu, parce que on est dans un domaine où les lecteurs sont souvent au moins aussi pointus que les journalistes et ils ne nous pardonnent rien. Alors qu'on est vraiment un domaine où... où les codes, où la connaissance, où la culture du sport, et justement une espèce de code commun entre le lecteur et le journaliste, et le journaliste n'a pas le droit de se tromper.
Le fait qu'il y ait aujourd'hui beaucoup plus de matchs que par le passé de retransmis, ça oblige à un angle un peu différent dans la couverture des événements.
Mais c'est une bonne question, mais il y a deux choses qui superposent dans l'évolution du traitement du sport à chaud. C'est effectivement le nombre de matchs à la télé, parce que maintenant, dans la plupart des cas, les gens ont vu les matchs avant d'en lire le compte-rendu. Et l'autre chose qui superpose, c'est les nouvelles technologies. C'est-à-dire que maintenant que l'information est donnée en temps réel par Internet, et y compris par le service Internet de l'équipe, l'équipe.fr, il est évident que le traitement du match le lendemain dans l'équipe doit être très différent. Donc moi, je pense qu'on va se tourner vers une espèce de synergie nouvelle qui fait que le descriptif va être sur l'équipe.fr et sur le site internet tout de suite à la fin du match, quelque chose de classique, et que le lendemain matin, il y aura, on va espérer que ça soit une valeur ajoutée, mais il y aura un vrai commentaire, une espèce de critique de théâtre sur le match. D'accord. Où il y aura un point de vue, où il y aura quelque chose de nouveau qui pour apporter aux lecteurs. Parce qu'on peut plus se contenter de donner le descriptif le lendemain d'un match que tout le monde a vu à la télé et que les vrais fans auront déjà lu, dont les vrais fans auront déjà lu le compte rendu sur Internet.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, avec aussi la télé, l'équipe s'est renforcée. Vous avez des rapports entre vous, entre la télé et puis par exemple la rédaction du quotidien, ou alors c'est deux mondes complètement différents?
La télé, l'équipe, la télé en général.
L'équipe télé, et puis vous travaillez en synergie, ou alors c'est complètement deux mondes différents?
Non. De plus en plus, on travaille ensemble. Moi, j'ai la chance de
Vous faites les deux.
De co-présenter l'émission Match Retour tous les lundis avec mon ami Vincent Coiffet, Xavier Gravelaine. Et chaque jour, on va dire, dans la plupart des émissions de la grille, il y a journaliste de l'équipe qui vient s'inviter le mardi pour Questions de sport, souvent dans le grand journal d'Olivier Ménard, le vendredi pour Match après match. Il y a vraiment très régulièrement quelqu'un de l'équipe, et il y a une vraie volonté de synergie. Et maintenant, je pense, de plus en plus, il nous arrive de donner des informations sur le site internet l'équipe.fr. Oui. Par exemple, dans les transferts, si on a une information le matin à 10h, et on est à peu près sûr qu'elle va pas tenir jusqu'au lendemain matin, enfin, qu'elle sera plus exclusive au fur et à mesure de la journée, à ce moment-là, on la balance tout de suite sur le site pour sigler cette information l'équipe. Alors que dans le temps, la moindre information, on la gardait pour le lendemain, vraiment que pour le journal. Maintenant, si on sent que l'info va tomber ailleurs dans la journée, on n'hésite pas à la balancer sur site internet.
Ah oui. Alors vous êtes quand même les plus nombreux à la rubrique foot de l'équipe, parce que lorsqu'on est journaliste à la rubrique de l'équipe, on travaille 11 mois sur 12, même parfois 12 mois sur 12 des années de Coupe du Monde ou d'Euro. Hein.
Oui, mais on est les plus nombreux, c'est vrai, on est 34, ce qui est beaucoup, 34 à faire que du foot à l'équipe. On travaille 12 mois sur 12, mais pas tous. En ce moment, c'est quand même ceux qui font les transferts qui travaillent beaucoup, et les pauvres, ils travaillent, ils travaillent tard le soir tout le temps, parce que les transferts, c'est plutôt tard le soir qu'il y a les rendez-vous, c'est plutôt tard le soir que sont les décisions. Donc ça, c'est un vrai rythme. Mais c'est un rythme... Moi, j'ai l'impression que la saison est à peine terminée. Et lundi, il va falloir que je sois à Lyon lundi matin pour la reprise de l'entraînement, puis à Tignes la semaine d'après la même semaine pour le stage. Donc ça va très très vite. Après, quelqu'un va prendre mon relais pour partir en Corée et en Chine en tournée avec Lyon. Donc c'est vraiment c'est un rythme de fou. Mais en même temps, c'est ce qu'on aime. Je pense que je pense qu'on s'ennuierait autrement.
Oui, mais quand on est à l'équipe au foot, on peut pas faire d'autres sports, contrairement à certains autres confrères qui eux peuvent faire ce qu'on appelle la rubrique BHV, par exemple, basket, handvolet, d'autres sports.
Et même, il y a beaucoup plus de cloisons qu'avant, parce que je pense que la volonté de spécialisation fait qu'il y a plus de cloisons, qu'on passe moins facilement d'un sport à l'autre. Alors, il y a des sports qui restent un peu jumelés, le tennis et le golf, par exemple. On sent bien, il y a un peu de ça. Certains sports de balle, éventuellement, c'est vrai, le hand et le volet. Mais enfin, ça reste assez rare. Et juste nous, au foot, on a le droit de temps en temps de sortir pour faire autre chose. Moi, j'avais fait la Coupe du Monde de rugby en 99.
L'athlétisme, je crois.
Du monde d'athlétisme en 2003 à Paris. Voilà, de temps en temps, on a droit à une petite sortie. Mais on lâcherait pas le foot, parce que une fois qu'on est dans ce rythme-là et dans ce milieu-là, mais même si le milieu nous plaît pas tout le temps, ça reste une vie passionnante.
Mais par exemple, faire des Jeux Olympiques, Vincent, à Pékin,
j'ai eu la chance pour le Progrès de faire les Jeux Olympiques de Séoul en 88 et de Barcelone en 92. J'y suis retourné, je suis également allé aux Jeux à Athènes en 2004 quelques jours. Et oui, j'irai volontiers à Pékin, bien sûr.
Alors comment ça se fait? On vient frapper aux autres rubriques? Des autres.
Oui, mais ça se fait de manière informelle.
On se croise
de temps en temps. Tiens, au fait, ça me plairait, ça me dirait bien. Alors voilà, après, en fonction du statut qu'on a, en fonction de la liberté qu'on a, c'est quelque chose qui peut nous être accordé, voilà. Mais c'est, mais c'est vrai que le groupe olympique à l'équipe est déjà très fourni. Ils ont déjà des spécialistes dans tous les sports. Aller à Pékin, ça coûte très cher.
Donc avec des anciens du foot, d'ailleurs, Bonami, je crois.
Oui, avec Étienne Bonami, qui est des greffiers, qui habite pas loin d'ici. Et voilà, donc c'est. Non, non, mais c'est des choses qu'on. Oui, je pense que voilà, de temps en temps, on est content d'aller respirer un peu ailleurs.
Et entre les rubriques, vous avez des rapports, ou alors c'est vraiment dans les couloirs qu'on se croise, on n'a pas le temps, entre les différents reportages, d'être sur le terrain, on a très peu de rapports entre les différentes rubriques.
Mais on a des rapports aussi, on a quand même des rapports d'amitié avec ceux avec qui on a déjà travaillé, parce qu'il y a beaucoup d'anciens du foot qui ont changé de rubrique, donc avec cela, on a aussi des rapports au gré des... Je sais pas, par exemple, tout à l'heure, je sais qu'on va parler de golf, mais dans l'APG, qui est l'association de golf, on croise souvent des gens des autres rubriques, etc. Donc voilà, on les croise comme ça, mais c'est, de manière générale, c'est vrai qu'on a tendance à être immergé un peu dans notre sport, dans notre actualité, et que concrètement, en pleine saison, vu le nombre de jours de reportage à l'extérieur qu'on a, moi je ne passe pas plus de 4 ou 5 jours par mois au journal.
C'est ça. Et vous travaillez de chez vous quand même ? Ça arrive de travailler
quand j'y suis, oui.
Non,
mais avec les moyens actuels, c'est pas un souci de travailler chez soi, avec le portable, avec tout.
C'est fabuleux, ça.
C'est vraiment pas un problème. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas chez nous très très souvent non plus. J'ai pas passé beaucoup de week-ends à Vieille Église cette saison.
Et puis actuellement, là, vous êtes tranquille, hein, l'actualité foot, elle est donc relâchée. Et vous écrivez un bouquin, vous continuez à travailler, Vincent.
Oui, mais en plus c'est pour le journal, c'est-à-dire que une filiale de l'équipe, maintenant il y a une filiale d'édition à l'équipe, et donc pour les éditions Prolongation, je vais faire la grande histoire de l'Olympique Lyonnais. Alain Pécheral, mon confrère de la rubrique foot, a récemment publié la grande histoire de l'Olympique de Marseille. Donc on va créer comme ça une collection, donc c'est beaucoup de travail, c'est 350 pages, j'ai juste un mois pour faire ça, c'est pas énorme. Mais on va dire que j'ai 15 ans et un mois parce que pour faire ça, parce que ça fait 15 ans que je suis un peu immergé dans le club de Lyon, même s'il m'est arrivé pendant de longues années de le laisser, puisque depuis que je suis à l'équipe, j'ai suivi aussi bien Auxerre, le PSG, Bordeaux, d'autres équipes. Donc voilà, mais c'est quand même un domaine que j'arrive à maîtriser un peu. Donc je pense pouvoir rendre l'affaire dans les temps au 15 juillet.
Et avec France Football, donc ces deux rédactions à part entière, maintenant c'est fini l'époque où le journal de l'équipe travaillait aussi pour France Football et
c'est vice versa. C'est fini depuis le milieu des années 80 à peu près.
C'est ce que nous a dit Jean-Marie Laurent.
Depuis le milieu des années 80, les deux rédactions sont distinctes. Il reste encore 2-3 passerelles pour les correspondants régionaux, notamment pour mon ami Claude Chevalier à Lyon, qui est l'envoyé spécial permanent de l'équipe. Il travaille également pour France Football. Mais autrement, c'est vrai que c'est deux rédactions distinctes. Et lorsque France Football est passé à la double parution au moment de la Coupe du Monde 98, en paraissant le vendredi, on va dire qu'il y a une vraie concurrence rédactionnelle qui s'est instaurée entre nous. Bien sûr, mais c'est quelque chose que recherchait la direction, je pense.
Et puis aussi l'équipe le dimanche, ça c'est un bien important, parce que les matchs le samedi, hop, tout de suite à chaud, les commentaires, quoi.
C'est vrai qu'on a un peu on a un peu de mal à se souvenir de l'époque où il n'y avait pas d'équipe le dimanche. Je suis retombé sur quelques collections récemment de journaux du lundi, et c'est vrai que le journal du lundi avait un profil complètement différent.
Le titre était
c'était une espèce de condensé du week-end, et mais maintenant on aurait du mal à se passer du journal du dimanche, c'est vrai, ça devient une habitude. Alors, il y a eu quelques problèmes de distribution au début. C'était quelque chose qui avait été mis à l'essai pendant la Coupe du Monde 98 et qui a été conservé après. Mais à présent, que la plupart des quotidiens régionaux paraissent le dimanche, notamment dans l'ouest de la France, parce que pendant très longtemps, Ouest France ne paraissait pas, et ça posait un problème de distribution. Mais maintenant que la plupart des régionaux paraissent le dimanche, on a beaucoup moins de problèmes de distribution.
Ouais, même le Parisien s'est mis.
C'est également le groupe Amaury comme l'équipe.
Très bien. Alors, donc, un petit mot quand même de cette saison de foot, comment vous l'avez trouvé? Bon, certains disent le championnat, on s'y ennuie un peu, Lyon écrase trop la compétition. Vous êtes d'accord avec ça?
Malheureusement, oui. Disons, on va dire que quand on voit les matchs de Lyon au jour le jour, on s'ennuie un peu moins qu'ailleurs.
Oui.
Mais encore, ça n'a pas été très sensible à partir de janvier. Lyon a eu 2-3 mois très difficiles. Sincèrement, sur l'année 2007, je pense que Lyon a dû faire 3 ou 4 bons matchs, pas plus. Le reste était plus ou moins pénible. Mais au moins, il y avait des joueurs de talent et de temps en temps, ça suffisait à justifier le déplacement. Pour le reste, oui, ça a été plutôt ennuyeux. À chaque fois qu'une équipe était deuxième, elle leur restait 15 jours. J'ai trouvé que cette saison avait été assez faible au niveau du suspense, assez faible au niveau du spectacle. Je suis pas certain qu'elle ait été assez faible en ce qui concerne le niveau de jeu lui-même. C'est-à-dire que je pense que c'est très difficile d'être deuxième et troisième du championnat de France. C'est aussi difficile que de l'être cette année en en Italie où le championnat ressemblait pas à grand chose. Donc non, je veux dire, il faut pas non plus déprécier complètement le championnat de France. D'ailleurs, il suffit de regarder au classement de l'indice UEFA, c'est-à-dire que le classement des meilleurs résultats des pays en Coupe d'Europe. La France est quatrième, derrière les trois championnats majeurs que sont l'Italie, l'Angleterre et l'Espagne, mais elle reste devant l'Allemagne. Donc tout n'est pas négatif. On garde un championnat assez fort. Malheureusement, personne l'évalue avec vraiment sincérité, parce que ce soit les gens de la Ligue ou les gens de Canal, tout le monde est dans une logique de négociation des droits, et donc la Ligue a tendance à survaloriser le championnat de France, le Canal pour payer moins cher a tendance à le dévaloriser, donc le débat est pas très serein ni très sincère.
Ouais, parce que 15 points à la trêve, 17 à l'arrivée.
Oui, mais même Lyon aurait dû finir avec 25 points d'avance.
Oui. Même avec Lyon qui fait une deuxième moitié de championnat très plus difficile, mais ils ont quand même 17 points à l'arrivée.
Ils ont 17 points d'avance, alors qu'à partir de janvier, c'est une équipe qui n'a plus ressemblé à rien. Le vestiaire a pris feu et le jeu s'est complètement délité. Et malgré ça, ils ont fini avec 17 points d'avance.
Ouais. Vous confirmez les déclarations de Govou sur Juninho? Parce que c'est vrai que visiblement, il y a eu un groupe qui s'est un peu étiolé. Hein.
Mais c'est un groupe qui s'est vraiment étiolé à partir de janvier. Il y a eu plusieurs erreurs qui ont été faites. Je pense que sur le fond, Govou a raison. Sur le fond, Govou a raison. Mettre Juninho capitaine, c'était une fausse bonne idée. D'ailleurs, quand Paul Le Guen était entraîneur, il n'aurait jamais mis Juninho capitaine. Il savait très bien qu'il fallait un vrai leader dans le vestiaire et que Juninho n'est pas un vrai leader. C'est un immense joueur, mais vraiment un immense joueur. Mais ce n'est pas un leader. La fonction de capitaine et de meilleur joueur de l'équipe, c'est quand même deux fonctions différentes. Il vaut mieux qu'il reste un meilleur joueur de l'équipe, mais qu'il ne soit pas capitaine. Donc c'est ça que Govou a pointé. Il a un peu démenti les déclarations qu'il a faites aux déclarations Lyon Mag. Mais moi, le soir même, il m'a appelé, je me rappelle très bien, j'étais là, à Vieille Église, il m'a appelé un soir à 9h moins quart, il venait d'enregistrer Fort Boyard, il était absent pour la journée, il m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit écoute, voilà ce qui se passe, demain dans Lyon Mag, il y a une telle interview, et voilà ce qu'il te fait dire. Et donc je lui ai lu ce que j'avais repris le matin dans l'équipe, et la seule chose qu'il ait démenti, c'est d'avoir parler de Michel Aulas, d'avoir intégré le président à son discours. Mais le reste, il n'avait pas vraiment démenti. Donc le démenti qui a été publié le lendemain sur le site internet de l'Olympique Lyonnais, je ne l'ai pas pris exactement au pied de la lettre.
Voilà. Ouais, c'est souvent une bonne guerre, de toute façon. Hein. Ouais. Vous parliez, Govou, les rapports entre les journalistes de l'équipe et puis les joueurs, ils sont comment aujourd'hui? Parce qu'on reproche ce manque de proximité par rapport à nos confrères d'il y a une quinzaine ou vingtaine d'années. Quoi. Aujourd'hui, il faut passer par des intermédiaires.
Non, c'est évident qu'il n'y a pas de commune mesure entre travailler...
On ne prend plus les cars ensemble,
entre travailler à Lyon il y a 15 ans, quand on rentrait dans les vestiaires et qu'on était trois tous les jours à l'entraînement, et maintenant, ou tous les matins à l'entraînement, il y a à peu près 30 journalistes. Mais en même temps, quand on travaille à l'équipe, pour ce qui concerne la proximité, on a quand même plus de proximité que les autres. C'est-à-dire que les joueurs ont beaucoup plus intérêt à faire passer leur message auprès de nous qu'auprès du petit bleu d'Agen. Il faut être honnête. C'est-à-dire on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Et c'est vrai, enfin sur le même, même longueur d'onde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à l'équipe, on a la chance quand même que les joueurs aient intérêt justement à faire passer leur message. On a plus facilement leur portable, on a plus facilement contact avec eux. Alors maintenant, la proximité effectivement n'est pas la même qu'il y a 15 ou 20 ans, mais c'est le sport qui a changé, c'est la médiatisation
qui a changé. Complètement,
Et je trouve qu'après 98, ça a été beaucoup plus sensible. Après que la génération 98 soit devenue championne du monde, ils avaient basculé pendant un ou deux ans vers le papier glacé, vers les paillettes, etc. Mais au bout de deux ans, ils sont revenus vers nous. Ils sont revenus vers la presse sportive parce qu'ils se sont rendus compte que d'abord que c'était un peu plus l'essence de leur métier que la presse people. Et surtout, ils se sont rendus compte que tous leurs proches, leurs amis, leur famille, ils lisaient la presse sportive et que c'était par la presse sportive qu'ils avaient envie d'avoir des nouvelles d'eux. Donc ils sont revenus à ça, et là aujourd'hui on a des rapports normaux à peu près avec tous les joueurs de l'équipe de France et de Lyon, à une ou deux exceptions près, Sagnol est fâché pour X ou Y raison, mais on a des rapports avec la plupart d'entre eux, et on va dire que 2, 3, 4, 5 fois par an on arrive à avoir une interview avec eux sans problème, tranquillement.
L'épisode de 98, il est loin maintenant, l'épisode avec Aimé Jacquet,
Oui, il est loin, mais on en parle assez.
On vous en reparle encore un peu.
Non, mais on en parle assez librement. Ouais. Je veux dire, il y a pas. Pour moi, il y a Il n'y a pas vraiment de souci par rapport à ça. On était dans une logique de conflit.
Bon, Jérôme Bureau est parti. Il y a certains qui ont changé dans l'équipe.
Il est parti, mais il faut quand même dire qu'il est parti, mais ça n'a rien à voir avec Aimé Jacquet.
Absolument.
Parce qu'il est parti.
Pour être à Sport FM d'abord.
Il est parti cinq ou six ans plus tard. C'était quelque chose qui avait vraiment rien à voir. Il est parti après avoir été celui qui est resté le plus longtemps à son poste depuis très longtemps. Non. Donc, ça n'avait vraiment rien à voir avec ça. Ça a eu des conséquences chez nous, parce qu'on s'est, je pense qu'on s'est posé les bonnes questions. C'est quelle est notre place par, est-ce qu'on est une institution? Quelle est notre place par rapport au sport français? Est-ce qu'on doit être, est-ce qu'on est vraiment un membre de la famille? Est-ce qu'on est un peu en dehors? Est-ce qu'on est un peu à côté? Quelle doit être la bonne distance par rapport aux équipes? Je pense que par exemple pour la Coupe du Monde de rugby 99, un an après, quand en préparation l'équipe de France a pris 50 points à Wellington de rugby, je pense que ça a pu jouer dans une certaine prudence.
On ménage un peu plus les entraîneurs maintenant.
Mais je suis pas sûr qu'on ait raison. Très franchement, je suis pas sûr qu'on ait raison. Je suis pas sûr qu'on soit posé non plus toujours les bonnes questions après. Et je suis pas sûr que l'équipe gagne beaucoup à être tiède.
Oui.
Et le lecteur ne gagne pas à ce que l'équipe soit tiède. On doit pas être tiède. On doit continuer à dire ce qu'on pense et à écrire ce qu'on pense. Alors, sans doute que on doit pas rester dans une logique de conflit pur et qu'il faut que le raisonnement soit plus important que cette logique de conflit qu'on avait en 98. Mais sur le fond, je pense qu'il faut qu'on continue à avoir un point de vue. Ça me paraît essentiel.
On va revenir naturellement donc sur la saison. Le fait que le championnat ait vu Lyon largement dominer le football français, ça explique peut-être le fait que cette année les Coupes d'Europe n'aient pas été particulièrement brillantes pour les clubs français. Ça manque de compétitivité, donc c'est ce qui explique peut-être qu'au niveau européen, dans cette dernière ligne droite.
Oui, mais je pense qu'il y a deux problèmes. En fait, je pense que le principal problème, c'est que la Coupe de l'UEFA n'est pas assez attractive pour les clubs. Oui. C'est-à-dire que soit ils y accèdent directement et pour eux, ça sanctionne un joli championnat, soit ils accèdent via la Coupe Intertoto.
Ouais,
et pour eux, ça veut dire une préparation tronquée, un mois de juillet infernal, etc. Et la Coupe de l'UEFA, surtout, ne rapporte pas assez d'argent parce que les droits télé, ils sont extrêmement faibles. Par exemple, Bordeaux, qui a participé à la Ligue des Champions, mais seulement pour faire joli, a touché 16 millions d'euros. Alors que Lille, en passant un tour de plus, a touché 19, et Lyon également, mais qui est également arrivé en 8e, a touché 22. Donc entre Bordeaux qui est passé pour dire bonjour en Ligue des Champions et Lyon qui était d'aller plus loin, il n'y avait quasiment pas de différence. Alors qu'en Coupe de l'UEFA, le vainqueur n'a touché que 7 ou 8 millions d'euros au total. Donc il y a un vrai décalage. Il faut absolument que l'UEFA règle ça. Et je pense que si Michel Platini veut redonner un peu de lustre à la Coupe de l'UEFA, il faut d'abord qu'il redonne un peu d'argent vis-à-vis des clubs. C'est pas un enjeu suffisant. Il vaut mieux gagner. En France, il vaut mieux gagner la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue qu'aller loin en Coupe de l'UEFA. Ça rapporte beaucoup plus d'argent. Donc, je pense que c'est un des problèmes qui fait que les clubs français ont eu tendance à se détourner un peu la Coupe de l'UEFA et qu'on a vu malheureusement des entraîneurs français aligner des équipes très mixtes en semaine en Coupe UEFA pour garder leur meilleure équipe pour la fin de semaine en championnat. Donc, ça, c'est un des problèmes. L'autre problème, c'est évidemment que Lyon n'a pas été au niveau cette année. Voilà. Que Lille soit en 8e de finale de la Ligue des Champions, c'est pas une contre-performance. C'est même un exploit incroyable. On n'en parle pas assez, mais que Lille soit dans les 16 meilleures équipes européennes avec le 10e budget de la Ligue 1, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Oui, oui.
Donc bravo à Lille, mais malheureusement c'est Lyon cette année qui a flanché.
Qu'est-ce que vous pensez de ce mercato là actuellement? Il y a quand même des gros noms qui s'en vont, les entraîneurs, Laval c'est aussi des entraîneurs, les chaises tournantes, les chaises musicales.
Alors effectivement c'est plutôt les chaises musicales chez les entraîneurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés, il y a peu de nouveautés. Ricardo part à Monaco pour promettre du spectacle, voilà, ça tourne un peu, à part Laurent Blanc qui va être une vraie nouveauté à Bordeaux, autrement il n'y a pas énormément de nouveautés. Ça tourne plutôt. En revanche, sur les joueurs, je disais ce matin la grille des transferts dans l'équipe, parce qu'il n'y a aucune page de transfert avec la première grille, les arrivées, les départs. Et je regardais les arrivées, je me disais quels sont les grands joueurs qui arrivent. Et bien pour l'instant, il n'y en a pas.
Oui.
Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il y a des grands joueurs qui s'en vont, parce qu'Abidal et Malouda et Thiago qui quittent Lyon sont des grands joueurs. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de grands joueurs qui arrivent, il n'y a pas de grands noms. Alors je veux bien qu'on recrute malin, qu'on recrute des joueurs que les autres ont encore pas repérés, mais j'ai peur qu'on recrute beaucoup de joueurs moyens. Pour l'instant, c'est pas très impressionnant. Ce qu'on peut espérer, c'est que l'argent que Lyon va faire circuler dans le championnat de France, parce que Lyon pour l'instant sert beaucoup dans les clubs français, que cet argent-là permettre d'aller recruter un peu à l'étranger. Mais pour l'instant, le mercato va plutôt dans le sens d'un affaiblissement du championnat.
Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même des grands joueurs qui quittent Lyon. Hein. Thiago, effectivement, Abidal, probablement Malouda. On peut s'inquiéter quand même. Hein.
Mais on peut beaucoup. Pour Thiago, à la limite, Lyon a survécu tant bien que mal au départ des siens, de Gila Diarra. Bon, au départ de Thiago, je pense que Lyon peut survivre, que ça soit Bonnemer, que ça soit Toulalan. Bon, peut-être que Lyon peut s'en tirer, à la limite. Mais en revanche, concernant le côté gauche, je suis beaucoup plus circonspect. C'est-à-dire, là, on parle actuellement du duo parisien Armand-Rotten. Ouais. Alors, ce sont des bons joueurs, mais j'ai un peu de mal à considérer qu'on ne s'affaiblisse pas quand on remplace le côté gauche de l'équipe de France par le côté gauche du PSG. Quand on voit la saison du PSG. Même si Armand a été un des rares irréprochables et qu'il a fait une grande saison, même si Rotten a très bien fini et qu'il a une qualité de centre qui est d'ailleurs peut-être supérieure à Malouda, mais globalement, ça reste Lyon avait un milieu gauche de niveau mondial et j'ai du mal à considérer que le PSG aussi.
Barcelone, en tout cas, Abidal, Henry, faire jouer tout le beau monde et tout ça.
Oh mais Abidal,
ça va être l'équipe à battre. Hein, bon,
oui, mais Abidal n'aura pas beaucoup de concurrence parce que de toute façon, dans le monde, il doit y avoir 5 arrières gauche en tout et il est un des 5. Donc lui, il est sûr de jouer. Mais en revanche, pour Henry, ça va être compliqué parce qu'il y a les 4, Eto'o, Ronaldinho, Messi et Henry. Plus d'écho que tout le monde enlève de l'équipe type, mais vu que c'est lui qui donne un peu un sens collectif à tout ça, je vois pas comment on peut les enlever. Ça me paraît compliqué qu'ils jouent tous ensemble. Je suis encore pas persuadé qu'Eto'o reste, mais s'il reste, ça va être très compliqué.
Ouais, c'est sûr.
Ils vont se retrouver dans la situation du Real Madrid.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Ça rappelle avec plein de stars 2000, et pas d'équilibre, quoi.
Oui. C'est vrai qu'il manquait un peu la défense maintenant. Avec Abidal, c'est parfait, là, derrière.
Oui, c'est parfait, mais enfin, Abidal fait quand même beaucoup de bourdes défensives. Il est celui au monde qui les rattrape le mieux, mais il est peut-être celui qui en fait le plus.
Le championnat anglais puis le championnat espagnol, ce sont les deux championnats de référence. Hein, cette saison, on a vu encore.
Oui, d'autant que le championnat d'Italie, encore une fois, ressemblait à rien avec la relégation de la Juve, avec la domination écrasante de l'Inter. Et surtout, il y a un tel déficit maintenant chez les clubs italiens qu'il y a une fuite des stars. Il y a beaucoup moins de stars qu'avant. Les stars, effectivement, soit en Espagne, soit en Angleterre, où la fiscalité est beaucoup plus favorable, où il y a beaucoup plus d'argent, où l'argent des télés est vraiment énorme. Donc, c'est vrai que l'Angleterre et l'Espagne dominent le monde actuellement.
Et puis, on parlait justement des stats au niveau des championnats. C'est quand même le championnat où on a marqué le moins de buts et où le buteur est celui qui a marqué le moins grand nombre de buts.
Voilà, c'est le championnat où le meilleur buteur a le plus faible total. C'est encore Pauleta, qu'il n'a pas joué tous les matchs. Heureusement qu'il tire les pénaltys. Mais le nombre de buts quand même était supérieur à la saison dernière. C'est un petit peu évolué à la moyenne.
C'est bien les stats de l'équipe, tous les lundis là.
Voilà, mais bon, on peut pas non plus juger un championnat seulement au nombre de buts. Mais c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a plus d'espace en Angleterre et qu'en Espagne il y a plus de qualité de jeu. Mais au-delà de la qualité, au-delà des espaces, il y a surtout beaucoup plus d'intensité en Angleterre. Je trouve ce qui manque le plus en France en ce moment, c'est l'intensité. Je trouve qu'on est plus sur l'influence italienne avec des blocs. Maintenant, on joue bloc contre bloc, très tactique, tout le monde défend à 8, tout le monde attaque à 3. Ça serait bien que tout le monde défende à 6 et tout le monde attaque à 5, mais là, on n'en est pas là.
Justement, vous suivez beaucoup Lyon. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenue d'Alain Perrin? C'est un homme pour gagner la Ligue des Champions ou plus la Coupe de France ou la Coupe de Ligue?
Moi, je ne suis pas d'accord du tout sur le discours. Si Lyon prend Alain Perrin après Gérard Houllier, c'est que Lyon renonce à gagner la Ligue des Champions. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Pour avoir vécu de l'intérieur la deuxième saison de Gérard Houllier, je peux vous dire qu'elle a été extrêmement compliquée, qu'il avait la majeure partie du vestiaire contre lui, que ça a été très très difficile. Et que je vois pas pourquoi Alain Perrin arriverait pas à reprendre un peu en main ce vestiaire et cette équipe. Entraîner Lyon, c'est très compliqué parce qu'il faut avoir du leadership vis-à-vis du vestiaire et qu'il y a des joueurs de caractère, il y a des joueurs qui ont pris de l'âge, il y a des joueurs qui ont du passé. Donc c'est pas facile de se faire respecter par eux. Ils sont forcément durs en affaires. Mais c'est difficile aussi parce qu'il y a une pression constante du président. Qui se laisse jamais aller à la moindre ingérence dans le domaine sportif, mais qui est extrêmement présent et qui est capable d'appeler son entraîneur 4 ou 5 fois par jour, donc ça c'est fatigant. Mais en même temps, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de savoir organiser une équipe, il suffit d'avoir un management clair et honnête dans la gestion des égos, et ça va passer. Et pour moi, Je pense que l'entraîneur avec qui ça s'est mieux passé ces 6-7 dernières saisons, c'est avec Paul Le Guen. Mm-hmm. Je pense qu'Alain Perrin a un profil assez proche de Paul Le Guen. Voilà, et je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Et j'ai jamais vu une seule seconde le recrutement d'Alain Perrin comme un abandon des ambitions.
Le président Aulas, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un président qui est assez controversé quand même. Hein. Tous les clubs tirent à boulet rouge sur lui, que ce soit les Verts, le Paris Saint-Germain, Marseille.
Mais oui, pour deux raisons. D'abord parce que c'est le plus connu et c'est le plus ancien. Il est au pouvoir depuis 20 ans maintenant. Mm-hmm. Ensuite, parce que c'est lui qui domine aujourd'hui, donc il est en position monopolistique, ça ne fait pas plaisir.
Ça faisait pareil pour Tapie et Baize avant.
Ensuite, c'est parce qu'il n'a jamais la moindre... Il sait pas ce que c'est que la diplomatie, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est faire avancer les dossiers, quitte à fâcher tout le monde. Il résume souvent l'affaire entre quiconque se met en travers de mon chemin n'arrivera pas à m'arrêter. Et en général, c'est ce qui se passe. Personne n'est arrivé à l'arrêter pour la bourse, même s'il a mis 15 ans pour y arriver. Je pense que personne va l'arrêter pour son nouveau stade, même s'il va mettre peut-être un ou deux ans de plus à y arriver. Même, ça sera peut-être que l'horizon 2011 ou 2012. Voilà, c'est quelqu'un qui fait toujours passer l'intérêt de son club avant sa propre image, quitte à déranger, quitte à être impopulaire. Donc, il est impopulaire, donc il dérange. Je pense qu'il en souffre un ou deux jours par an, mais pas plus.
Allez, les malheurs du Paris Saint-Germain, c'est le club de la région quand même, le PSG. Vincent, comment on peut expliquer que depuis des années, ce club finalement se cherche? Et puis cette année, le recrutement zéro pour l'instant. Hein.
C'est un club qui paye ses mauvais choix. Qui paye ses mauvais choix. C'est-à-dire qu'on est passé des années Deniso qui étaient quand même exceptionnelles.
Qui ont été les meilleures années.
Avec 5 demi-finales européennes de suite quand même, entre 92 et 97, 93 et 97, ce qui est quand même énorme. 5 demi-finales, dont une finale de Coupe des Coupes gagnée et dont une finale de Coupe des Coupes perdue. Donc ce qui est quand même énorme, 5 de suite. Et la fin des années Deniso a été mal vécue en 98 et mal organisée. Je pense que le passage de Charles Biétry a fait beaucoup de mal.
J'irais dans un camion.
Voilà. Mais ça fait beaucoup de mal.
Dans un baraquement,
Et surtout, les présidents successifs n'ont pas fait beaucoup de bien.
C'était pas des gens de foot.
Dire que Perpère est un homme charmant, mais complètement incompétent. Ouais. Blaillot était ni charmant ni compétent. Donc aujourd'hui, le PSG a retrouvé un peu de calme avec Alain Cézac, qui est
un homme du cru, lui. Hein,
qui est un homme du cru, qui adore le club, qui lui agit de manière désintéressée, ce qui n'était pas forcément le cas de Francis Gray, que j'avais oublié au passage. Mm-hmm. Francis Gray était quelqu'un de tout à fait charmant, que je connais depuis très longtemps, mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il était au PSG pour faire la même chose qu'à Lille, c'est-à-dire une grosse plus-value sur ses actions dans le club. Donc forcément, il était soupçonnable par rapport à ça. Alain Cézac ne l'est pas du tout, et l'attelage qu'il forme avec Paul Le Guen, je pense, va participer à ramener le PSG vers le niveau. On a vu que la fin de saison s'est passée dans un calme incroyable. C'est-à-dire que quand le PSG était 18-19e, le public était derrière, il ne se passait rien, tout était calme. Donc je pense que ça va faire beaucoup, beaucoup de bien au PSG, ça.
Oui, malheureusement, les problèmes qu'il y a eu au niveau des supporters au mois de décembre, on a le sentiment que ça a donné une prise de conscience aux supporters.
J'en suis pas certain. Je pense que le PSG pourra parvenir en arrière. C'est comme à Marseille. Ce sont les deux clubs qui, par démagogie, ont abandonné quelque chose aux supporters qu'ils n'auraient jamais dû abandonner. Alors Marseille a abandonné le pouvoir financier. C'est-à-dire qu'il y a 28 000 places du Vélodrome à Marseille, de virage, qui sont gérées par les clubs du supporter eux-mêmes. Le club marseillais les vend au club des supporters pour 100 à 120 euros, et les clubs des supporters les vendent à leurs propres supporters pour 140 à 180 euros. Donc il y a beaucoup de gens, des supporters qui vivent là-dessus. Donc Marseille a abandonné une partie de son pouvoir financier aux supporters. Paris, lui, a abandonné autre chose. C'est l'espèce de pouvoir politique à ses supporters. Il leur a laissé prendre une importance qu'ils n'auraient jamais dû avoir. En France, il n'y a pas un club qui puisse se développer à travers cette espèce de république des supporters. On leur donne beaucoup trop de légitimité.
Vous pensez qu'on a donné trop d'importance?
Bien sûr.
C'est Bernard Tapie qui avait fait ça. Hein,
c'est Tapie. Mais Tapie l'a fait au niveau financier par démagogie, et Paris l'a fait au niveau politique par démagogie. Et aujourd'hui, ce sont les deux clubs qui le payent. Alors Marseille le paye financièrement en n'étant pas maître de la commercialisation de son stade, et le PSG continue à le payer un peu politiquement, donnant ses rapports difficiles avec ses supporters, alors qu'il devrait être aussi le maître de son stade.
Oui, une année très difficile en tout cas dans les stades.
Une année assez cauchemardesque, oui, c'est vraiment passé beaucoup de choses, et le drame de la porte de Saint-Cloud, a été une noire apothéose de tout ça.
Oui. Alors l'équipe de France, tiens, Vincent, on n'en a pas encore parlé. Il y a un an, jour pour jour, on battait le Brésil en quart de finale hein, du Mondial, déjà le 1er juillet.
Ah, c'était il y a un an.
Eh oui, déjà, il y a un an.
Magnifique nuit de Francfort.
Oui. Alors l'équipe de France, elle est dans un tableau de marche, de toute façon tout à fait correct pour jouer la phase finale de l'Euro.
Bah c'est correct, même si la défaite en Écosse peut rester lourde de conséquences. L'équipe de France a gagné tous ses autres matchs et les 6 points qu'elle a su prendre au mois de juin font vraiment beaucoup de bien, surtout après la victoire en Lituanie. Donc pour l'instant, oui, pour l'instant les Bleus sont dans un temps de passage tout à fait correct. Ils vont jouer sans doute leur avenir européen dans les premiers jours de septembre. Mmh. Le 8 septembre à Milan contre l'Italie, puis le 12 septembre. Pour le retour qu'on attend tous, c'est le retour de l'équipe de France au Parc des Princes face à l'Écosse. Parce que franchement, le Parc des Princes est peut-être le plus beau stade de foot en France. Mmh. Enfin, à mon avis, pour moi, c'est le plus beau.
Ça rappelle tellement de souvenirs à notre génération.
Non, mais c'est un vrai stade de foot.
Ouais.
Je veux dire, on va jamais au Stade de France avec plaisir pour voir du foot. C'est pas un stade de foot.
Ouais, c'est un stade d'événement.
L'ambiance y est bonne de manière exceptionnelle, une fois sur 20, une fois sur 30. Alors qu'au Parc, c'est toujours. Parc pour l'équipe de France, ça va être surtout l'Écosse qui va amener ses 5000 supporters en kill. Ça va être une soirée magique pour ça.
Et après il y a l'Ukraine aussi. On espère que ce ne sera pas un match décisif.
On espère que ce ne sera pas décisif parce que c'est l'Ukraine. Il faut aller jouer en Ukraine quelque chose comme le 21 novembre, au bout de la saison. Même si l'hiver ukrainien est un peu moins rude parfois que l'hiver moscovite, c'est quand même beaucoup plus au sud. Et je me souviens y être allé avec Lyon la saison dernière en Coupe d'Europe au mois d'octobre-novembre. Il faisait un temps relativement doux. Il n'empêche que c'est pas un bon moment pour y aller. Il vaudrait mieux avoir 3 points d'avance et une bonne différence de but particulière, ce qui est déjà le cas parce qu'on a battu l'Ukraine 2-0 à l'aller. Il vaudrait mieux avoir 3 points d'avance avant d'aller à Kiev.
Ce mondial, c'était il y a un an, vous l'avez trouvé comment, Vincent, d'une façon générale? Combien de Coupes du Monde déjà vous avez couvert en tant que...
J'en ai fait 6 déjà, moi.
6 déjà?
J'en ai fait 6, ouais. J'ai commencé à 86 au Mexique pour le progrès, j'ai enchaîné 90 en Italie, 94 aux États-Unis pour le progrès, et pour l'équipe, 98 en France, 2002 en Corée et Japon, et 2006 en Allemagne. Moi, j'ai beaucoup aimé cette Coupe du Monde. J'ai adoré ces stades, j'ai trouvé ces stades fantastiques.
Ça a rappelé la France.
C'est ça, c'était la Coupe du Monde en France, mais avec des beaux stades.
Oui.
Ce qui fait une vraie différence. Parce que nous, on a quand même gâché honteusement la Coupe du Monde 98 avec des stades calamiteux. Quand on voit le stade de Marseille, mais comment ça se fait qu'à Marseille, autour du club, tant de gens sont en prison et pas l'architecte? C'est l'architecte qu'il faut emprisonner à Marseille. C'est scandaleux d'avoir fait un stade comme ça. Donc en Allemagne, il y avait des stades fascinants comme celui de Munich ou tous les autres, Francfort et tout, Hambourg. C'était vraiment des très très beaux stades. Et il me reste de cet été allemand l'idée d'une fête et de vraiment quelque chose de bien. Alors le fait que l'équipe de France soit allée loin, c'est évidemment un plus, mais c'était vraiment une belle fête et ça donne de nouveau envie d'accueillir un euro en France comme il en est question en 2016.
Justement, un petit mot des quelques mois de la présidence Platini, c'est un petit commentaire sur ses premiers mois de présidence.
Mais déjà la chose qu'il est parvenu à faire, c'est à reprendre le pouvoir, c'est-à-dire que le précédent président, c'est pas facile à dire ça, Johansson avait tendance un peu à sucrer les fraises et à rester Suède, donc il avait abandonné complètement le pouvoir à l'administration. C'était son directeur exécutif qui gérait l'UEFA. Là, Michel Platini a repris le pouvoir, c'est le président qui gère, mais je pense qu'il sait que sur 2-3 réformes sensibles, notamment celle du format de la Ligue des Champions, il faut aller doucement et pas heurter les clubs. Là, visiblement, il cherche à rétablir l'importance et le prestige des coupes nationales en promettant aux vainqueurs des coupes nationales une place dans un tour préliminaire de Ligue des Champions. Je ne suis pas sûr qu'il va y parvenir facilement, mais c'est le genre de choses effectivement qu'il peut arriver à faire et à changer.
Ouais, puis on sent qu'il est encore footballeur dans l'âme, Platini.
On sent qu'il est footballeur dans l'âme, et qu'il réagit en tant que footeux.
Ce
qui l'intéresse, ce n'est pas les bénéfices de la Ligue des Champions, c'est que les vieilles épreuves traditionnelles du foot, comme les coupes nationales, gardent leur importance et leur prestige.
Vous aimez le golf, hein, Vincent, c'est un bon parallèle, parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs de foot qui jouent bien au golf. Hein. Bogossian a atteint un très bon niveau. Hein.
Ah oui, il habite même à côté d'un golf, il a acheté une voiturette carrément, et il la prend tous les matins pour aller faire des trous à n'importe quelle heure. Oui, non mais je pense qu'il y a beaucoup de... De toute façon, tous les anciens sportifs qui cherchent un substitut après leur carrière trouvent dans le golf tout ce qu'il leur faut, le côté compétition, le côté difficulté technique, le côté concentration, et c'est vraiment... moi, c'est un plaisir immense de jouer au golf. En plus, on a la chance dans la région d'avoir tout ce qu'il faut autour. Et c'est vraiment un vrai grand plaisir. Alors, c'est un plaisir que j'ai surtout en semaine, parce que je trouve que l'atmosphère des week-ends au golf est beaucoup moins sympa. Pour dire la vérité, je trouve que les gens sympas qui jouent au golf jouent plutôt la semaine et que le week-end, je préfère laisser les autres entre eux.
Mais, d'accord. Ouais, ouais.
Mais autrement, ça reste un sport magique. Ouais, j'adore ça.
C'est un sport qui peut véritablement un jour se démocratiser parce que c'est encore un peu de mal quand même par rapport à ce qu'a connu le tennis, par exemple.
Il se démocratise parfois, mais c'est beaucoup plus dur de créer un parcours de golf que de créer quatre courts de tennis. Je veux dire, dans les années 80, au début de l'explosion de Noah, l'explosion du tennis, tous les petits villages ont eu leur court de tennis. Pour le golf, on n'en est pas là. Alors peut-être qu'on pourra envisager pour la démocratie, pour la vraie démocratie du golf, que les communautés de communes se mettent autour d'un parcours, etc. Mais c'est des tels investissements financiers pour un nombre de personnes tellement restreint que ça ne me paraît pas envisageable. Il y a bien d'autres priorités avant ça. Donc, il y a des endroits où le golf peut être démocratique. Je sais que chez moi, à Bourg-en-Bresse, il y a un golf semi-municipal qui coûte à peu près, on va dire, 250 ou 300 euros par an aux membres. Donc, c'est pas énorme. C'est peut-être que c'est juste le double d'une licence de foot. Donc, c'est pas terrible. Mais dans la région parisienne, on est loin de ces bases-là.
Ouais, non, c'est sûr. Hein. Un bon complément en tout cas pour beaucoup d'activités sportives, le golf. Hein,
pour le plaisir de passer 5 heures en plein air, pour la concentration, pour la difficulté technique, pour avoir le sentiment de se battre en permanence contre soi-même et contre le parcours et de savoir finalement quand on commence qu'on n'en aura jamais fini avec ça quoi.
Vous avez jamais couvert le golf encore à l'équipe, vous n'avez pas le temps quoi, le foot ça prend tout.
J'aimerais beaucoup, je suis très envieux de mes camarades qui suivent le golf et qui partent 10 fois par an aux États-Unis et qui vont un peu dans le monde entier pour faire le golf. Je suis très envieux, mais il est évident qu'avec le foot c'est complètement impossible et que quand je sais pas, j'imagine que pour journal je dois couvrir 60 à 70 matchs par an.
Ouais, j'allais vous poser la question. Ça fait combien de matchs? 60, 70?
Je pense
sans
60...
compter ceux qu'on voit à la télé après.
Voilà, 60, 70, et je dois en voir à peu près le double à la télé, très franchement. Mais c'est à peu près. Enfin, c'est inévitable.
Bien sûr.
Et en plus, comme à présent, donc j'ai l'émission de télé le lundi sur l'équipe TV, match retour, je suis quand même obligé de regarder les matchs du week-end, surtout le match de l'invité du lundi soir. Ben oui. Donc ça se rajoute au match de Lyon que je vois parce que c'est l'équipe que je suis. Donc voilà, je vois facilement. La moyenne, c'est que je vois à peu près 3 matchs de Ligue 1 par week-end, dont un dans le stade. Je vois tous les matchs de l'équipe de France dans le stade, donc ça fait une quinzaine par an. Je dois voir une quinzaine de matchs de Ligue des Champions par an. On arrive à 30, 60 matchs de championnat, un peu de Coupe de France, un peu de Coupe de la Ligue, voilà.
Ben oui, voilà.
70, plus encore une dizaine en Angleterre. Donc en fait, on peut arriver en 80. J'ai dû voir 80 matchs cette saison, quelque chose comme
d'accord,
ça.
D'accord, vous voyez donc, à tous ceux qui nous écoutent, un journaliste à l'équipe, il voit à peu près 80 matchs par an.
Hein. Voilà. Non, mais tout le monde n'est pas aussi furieux que moi non plus. Hein, mais...
Vous avez des confrères qui, quand ils ne travaillent pas,
j'ai surtout des confrères qui sont pas spécialistes d'une équipe au jour le jour,
oui, c'est ça.
Qui ont d'autres missions dans le journal, qui peuvent être les transferts, les institutions, d'autres équipes ou d'autres phases du foot. Donc ils sont pas obligés d'être comme ça, d'être immergés dans l'actu. Mais moi, dans la mesure où je suis très lié à l'actualité, que ce soit de l'équipe de France ou de Lyon et tout, je suis vraiment plongé dedans. Et c'est pour ça que je regarde à peu près 80 matchs par an.
Alors, donc il y a l'équipe, et puis vous aimez beaucoup la télé, vous l'avez dit, hein, et puis aussi la radio. On vous entend. Chez Christian Jean-Pierre sur
Europe 1. Voilà, c'est ça. Pendant très longtemps, j'étais avec Eugène Saccomano sur RTL, et puis quand je suis revenu à l'équipe TV par nécessité de la synergie, j'ai donc dû abandonner LCI qui était en même temps, et donc du coup RTL, et du coup donc maintenant tous les jeudis je participe avec Christian Jean-Pierre à Europe Foot, et c'est un vrai plaisir parce que Christian est un garçon charmant et voilà, et que c'est une émission rigolote où on est entre journalistes, où il n'y a pas beaucoup de pression, où chacun peut vraiment raconter ce qu'il pense, et voilà, c'est plutôt agréable, c'est plutôt une déclinaison agréable du reste qui permet de... où on n'a pas de pression, c'est-à-dire qu'à l'équipe, honnêtement, la difficulté, c'est cette espèce d'exigence permanente du journal, mais aussi la pression qu'il y a autour, parce que dès qu'on écrit 3 lignes, ça prend des proportions invraisemblables. À la radio, on n'a pas ça. On peut arriver tranquillement.
On peut dire des conneries.
Non, mais disons que quand la radio, on dit une bêtise au deuxième degré, l'auditeur, il sent le deuxième degré. Alors que dans la presse écrite, si vous écrivez quelque chose au deuxième degré, le lecteur, il va le lire au premier. Le deuxième degré, il passe pas à l'écrit, mais il passe à la radio. Donc c'est pour ça qu'on peut être un peu plus léger à la radio.
Ouais, ouais. Il y a, les rapports entre les journalistes des médias, donc radio, télé et la presse écrite, aujourd'hui, sont comment?
Ils sont excellents. Ouais. Ils sont excellents.
Il y a plus fossé qu'il y avait un moment.
Mais je suis pas sûr qu'il y ait jamais eu un fossé. Par exemple, quelqu'un comme Thierry Roland a toujours été un vrai gentil. Il a toujours été. Moi, je me souviens, jeune journaliste à 25, 26, 27 ans. Je suivais l'équipe de France pour le Progrès. Mmh. Il était gentil comme tout avec tout le monde. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait un vrai fossé. Maintenant, à la limite, le fossé existerait presque plus parce qu'on n'est plus par exemple, sur une phase finale de Coupe du Monde, on n'est plus dans les mêmes centres de presse. Il y a un centre pour la télé, un centre pour les autres. Donc, on a tendance à un peu moins se croiser qu'avant. Et voilà. Et en plus, les moyens sont pas les mêmes. Mais le fond du métier est un peu le même, même si à la télé, dorénavant, le journalisme pur est un peu plus difficilement envisageable puisque les télés ont acheté les droits des événements et que leur intérêt économique est de valoriser ces événements et pas d'en dire du mal. Donc ça, c'est un vieux débat.
Oui, parce que des fois, il y a des comptes rendus d'événements qui sont pas tout à fait les mêmes quand même. Hein.
Comment voulez-vous que Canal Plus discrédite le championnat de France
du mal de la championnat
alors qu'il va payer
là,
dans la saison qui vient 650 millions d'euros pour l'année? Il peut pas dire c'est une compétition catastrophique. Alors il se trouve que le patron des sports de Canal Bompard,
ouais, Jean Bompard, ouais,
le dit à l'occasion parce qu'il est dans une logique de renégociation et qui veut prévenir les dirigeants. Oulala, votre championnat c'est moyen, mais s'il dit ça, c'est seulement pour essayer de payer moins la prochaine fois. Mm-hmm. Mais à l'antenne, Canal dira jamais ça parce que quand on paye 650 millions d'euros pour l'année, il faut évidemment valoriser le championnat. Mais je trouve que Canal le fait assez bien. Alors, il arrive parfois en direct que les journalistes de Canal donnent un peu trop dans la litote et qu'ils n'osent pas vraiment dire les choses. Mais globalement, je trouve que Canal fait assez bien vivre le feuilleton du championnat. Je veux dire, c'est pas facile à faire, c'est pas toujours facile à valoriser, mais je trouve qu'ils le font plutôt bien globalement.
Vous parliez de vos activités multimédia, ça ressemble à celle de Pierre Ménès maintenant.
Non, parce que moi je suis toujours journaliste à l'équipe.
Ouais, vous n'êtes pas sur Internet.
Alors que Pierrot nous a quittés maintenant il y a deux ans, trois ans,
on est passé par un.
Voilà. Non, mais on continue de voir Pierrot dans les tribunes de presse pour les matchs de l'équipe de France. Voilà, il est toujours là à nous faire avoir un bon mot pour nous faire rire. Voilà, donc on continue à le voir.
Et il fait même du cinéma maintenant.
Voilà, il fait même du cinéma, mais il a toujours adoré ça. Il a le sport gratuit, il a Yahoo sur Internet. On se fait aucun souci pour lui.
Le bouquin que vous écrivez actuellement, c'est sur Lyon, c'est ça?
Voilà, c'est sur Lyon. Ça va s'appeler La Grande Histoire de l'Olympique Lyonnais. Ça va apparaître aux éditions Prolongation, qui est un film filial de l'équipe. Ça devrait paraître dans le courant du mois de septembre. Et ça portera sur toute l'histoire de l'Olympique Lyonnais depuis 1950 à nos jours. Donc j'ai souhaité qu'il n'y ait pas que les années aux la sienne, qu'on remonte un peu aux autres d'histoire, parce qu'à la limite, moi, ça m'intéressait plus. Les années aux las, je les connais, je les ai vécues de l'intérieur. Je m'intéressais un peu plus à celles d'avant, mais j'ai essayé de respecter à peu près la proportion entre la proportion entre les époques. Et c'était un vrai plaisir de me replonger dans l'histoire du club, qui a finalement eu beaucoup de joueurs dont on a beaucoup parlé après. C'est à Lyon qu'Aimé Jacquet a commencé à être entraîneur. C'est à Lyon que Raymond Domenech a commencé. D'abord joueur, capitaine, puis entraîneur. Voilà, la combe était là. C'est à Lyon que Tigana est devenu professionnel. Il y a beaucoup d'histoires à raconter, et c'est vraiment ce que j'ai essayé de raconter. Je me suis pas trop intéressé aux saisons, aux résultats sportifs, parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver partout. J'ai plutôt essayé de raconter les histoires des hommes, les anecdotes, la manière dont ils vivent, les histoires d'Angèle Rambert ou de Nestor Combin dans les années 60, des choses comme ça. C'est plus ça qui m'a intéressé que les saisons au jour le jour.
Et pas de rivalité vers Lyon? Les Verts et
la Saint-Étienne.
Ouais.
Oh ben là non. En plus moi à titre personnel ça serait difficile parce que gamin j'ai toujours été supporter de Saint-Étienne. Mon père est stéphanois, un vrai stéphanois donc.
Oui, comme quoi on peut être.
Non, je peux pas. Je pourrais jamais dire du mal des Verts. Hein. C'est pas possible.
Bien sûr. Ouais. Puis ça a tellement marqué une génération de d'amoureux du foot que on peut pas l'oublier, Vincent. Ouais.
Mais d'ailleurs l'autre jour un ami m'a fait une citation que j'ai adorée sur les Verts. Il m'a dit un vrai parce qu'on disait les Verts croient toujours qu'ils vont revenir et il disait le vrai supporter des Verts, c'est pas celui qui croit que ça peut revenir comme avant, c'est celui qui c'était quelque chose comme ça. Mais c'était une citation. Je suis vraiment désolé de l'oublier à l'instant même où je dois la citer. mais c'était quelque chose sur la nostalgie et pour dire que la vraie nostalgie, c'est de croire encore que ça pouvait être bien à présent.
Très bien, merci beaucoup Vincent. Voilà, ben, merci à Vincent hein, d'avoir été donc le dernier invité de cette année 2007 de Tribune Foot. On a été en tout cas ravis de commenter l'actualité foot avec vous hein, pour cette année. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour la première émission 2008. Je l'ai dit, donc Eric Boyer sera dans Tribune Sport entre 9h et 10h. Ça sera la rediff de l'émission du mois de décembre. Et puis rediff aussi dans Tribune Foot de l'émission du mois de septembre qu'on avait faite avec Henri-Émile du côté de Poigny-la-Forêt. Bonne fête de fin d'année, bon réveillon de la Saint-Sylvestre et rendez-vous donc la semaine prochaine. Salut, on vous laisse avec Lionel qui reçoit dans quelques minutes Gérard Rinaldi dans Radio Village. Bonne semaine, bon week-end et bonne fête de fin d'année.